dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Il y a une phrase très forte dans ton livre, page 193. Non, ce n'est pas parce qu'il y a eu Hitler ou Pétain que nous avons eu des hommes comme Papon, mais parce qu'il y a eu des milliers d'hommes comme Papon que nous avons eu Hitler et Pétain.
C'est exactement le cas. C'est d'essayer d'en parler au niveau des élèves qui, dans le cadre de l'école, doivent mieux comprendre ce qui se passe et connaître le passé pour mieux appréhender le présent et anticiper sur l'avenir. Écoutez, monsieur le président de la République, ça serait bien que le 17 octobre 2025, le prochain 17 octobre, soit enfin reconnu que ce qui s'est passé le 17 octobre 1961 est bien un massacre d'État. Le verdict, c'est bien qu'il y ait une condamnation, mais il laisse quand même un petit goût amer, puisque, à mon avis, on est resté au milieu du guet.
Entre juillet 1942 et mai 1944, 1410 personnes d'origine juive ont été arrêtées et transférées de Bordeaux vers le camp de Drancy, puis vers celui d'Auschwitz, où la plupart d'entre elles ont été exterminées.
En octobre 1997, Maurice Papon, secrétaire général de la préfecture de Gironde à l'époque des faits, comparé devant la cour d'assises de Bordeaux, inculpé de complicité de crimes contre l'humanité pour sa participation active à l'organisation de ces convois.
Un procès fleuve, nécessaire pour la compréhension de l'histoire, pour la mémoire.
Mais aussi le procès d'un homme, d'un fonctionnaire, convaincu d'avoir agi au nom de l'État en des circonstances exceptionnelles.
Dans la salle se trouve notre invité Jean-Jacques Gandini, avocat et membre de la Ligue des droits de l'homme. C'est d'ailleurs à titre d'observateur de la LDH qu'il assiste à l'intégralité de ce procès, d'octobre 1997 à avril 1998.
En 1999, Jean-Jacques Gandini en tire un ouvrage intitulé
« Le procès Papon, histoire d'une ignominie ordinaire au service de l'État ».
Un livre qui fait la synthèse des débats et des questions soulevées par ce procès. Et cette année, ce livre est réédité chez Le Passager clandestin, enrichi, réactualisé, préfacé par un historien spécialiste du nazisme, Johan Chapoutot, et postfacé par Arié Halimi, avocat défenseur des victimes de violences policières.
Dans Dissonance, il va être question, avec Jean-Jacques Gandini, du procès Papon, bien évidemment,
mais aussi du massacre d'État commis à Paris le 17 octobre 1961, alors que Maurice Papon était préfet de police.
Et sera aussi évoqué ce qui se passe à Gaza, en Palestine, sous nos yeux et qui est un acte assimilable à un crime contre l'humanité.
Nous retrouvons Jean-Jacques Gandini à Montpellier.
Notre première question est...
Jean-Jacques, pourquoi as-tu jugé utile d'assister à ce procès ?
Oui, j'ai toujours été, intéressé par l'histoire en général et plus particulièrement par la Seconde Guerre mondiale et notamment le fait qu'il y a eu à ce moment-là si peu de résistants par rapport à la perte de la guerre face au nazisme et qu'entre 40 et 44, la plupart des gens ont suivi le maréchal Pétain au lieu de résister et de se poser des questions. Et sur un plan personnel, c'est parce que j'ai été directement intéressé par cette histoire au niveau de ma famille. Mon grand-père était à l'époque gardien, vaguemestre d'un camp militaire à La Valbonne dans l'Ain, Et il avait obtenu ce poste en tant qu'ancien gueule cassée, puisqu'il avait fait la guerre du Maroc et ensuite la guerre de 14-18. Il était mutilé de guerre, et en tant que mutilé de guerre, il a obtenu ce poste. Il était lui-même français, né en France, et sa mère était française, mais son père était italien. Son père était italien, et lorsqu'en 1940, Vichy a pris ses premiers décrets, avant même les décrets sur les Juifs, ils ont pris des décrets sur les étrangers. Sur les étrangers, et notamment, tous les étrangers ont été aussitôt révoqués, ceux d'entre eux qui avaient des postes dans l'administration publique, et également les fils d'étrangers. Et mon grand-père s'est retrouvé du jour au lendemain, donc fin juin 40, disons, donc chassé de son poste, sans préavis ni indemnité, et donc ce problème des étrangers, des Français, fils d'étrangers, qui par conséquent, en plus, avaient rendu des services à la France, puisque, comme je le disais à l'instant, mon grand-père a fait la guerre du Maroc et ensuite la guerre de 14-18, eh bien, ont été considérés comme des moins que rien et rejetés donc, du système. À partir de là, donc, c'est la raison pour laquelle, personnellement, connaissant cette histoire, j'ai su qu'il y avait ce procès Papon. J'ai pu, pour des raisons personnelles, me dégager pendant un certain temps de mes activités d'avocat. Et donc, en tant que membre de la Ligue des droits de l'homme, j'ai demandé à la direction de pouvoir assister en tant qu'observateur à ce procès et d'en rendre compte au fur et à mesure du procès dans Hommes et Liberté, qui était la revue des droits de l'homme, et ensuite, si c'était possible, d'en faire un ouvrage.
Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça t'a confirmé dans tes convictions sur le fait qu'un fonctionnaire pouvait jouer un rôle néfaste?
Oui, alors justement, ce qui est intéressant et important, c'est que justement, c'est pas pour rien que j'ai fait avocat, c'était pour m'intéresser effectivement plus près à la façon dont la justice était rendue, et en même temps le comportement des fonctionnaires qui étaient les magistrats, et que sont tous les magistrats, puisqu'il faut rappeler qu'au procès Papon, on a bien dit à l'entrée du procès Papon qu'en 1940, lorsque les fonctionnaires devaient prêter serment à Pétain, eh bien deux magistrats n'ont pas prêté serment, et sans prendre de risque, en guillemets, inconsidéré, puisque Papon va toujours essayer de faire croire qu'il n'avait pas le choix, et que s'il n'avait pas fait ça, eh bien, il risquait de partir, lui aussi, dans les camps de travail, voire plus, eh bien, ce fonctionnaire en question, enfin, sur ces deux magistrats, un d'entre eux, qui s'appelle Didier, est un peu connu parce que les élèves de magistrats ont donné son nom à leur session juste un an avant le procès Papon, pour rappeler justement que certains magistrats pouvaient dire non. Il a été effectivement révoqué à l'époque, interné 3 mois, mais c'est tout, si on peut dire, c'est quand même pas mal. Mais bon, il a ensuite rejoint d'ailleurs la résistance, et bien évidemment, il a repris son poste en 1944, et continuer sa carrière de magistrat, mais sans chercher spécialement à en profiter pour avancer dans la hiérarchie, il faut le rappeler. Mais simplement pour dire que d'autres magistrats ou d'autres fonctionnaires, notamment Bloch-Lenné, qui est assez connu, ont effectivement également dit non, ils ont été révoqués, ils ont fait autre chose, mais ils n'ont pas pour autant pris des risques inconsidérés, et par conséquent, la défense de Papon ne tient pas à ce niveau-là.
Est-ce que dans le procès, il t'a semblé que Papon comprenait ça, qu'il aurait pu résister?
Alors, Papon, à mon avis, il l'a senti, parce que c'est qu'un homme, il faut le reconnaître, très intelligent, mais une intelligence très fonctionnelle. Et Papon, dans ce procès, a toujours été quand même, de ce côté-là, dans le déni. Il était persuadé qu'il était dans son bon droit, d'autant plus que, et ça, il faut le rappeler, c'est important, et d'ailleurs, dans le film qui est sorti sur Papon, c'est rappelé de façon insistante, il a fait jouer tous ses appuis politiques en prétendant qu'il avait été résistant. Et effectivement, fin 43, début 44, il a rendu quelques services à la résistance dont il s'est servi, mais les gens qui sont venus au procès, des gens très haut placés, des résistants, on a déjà parlé dans mon ouvrage, des résistants de très haut niveau, sont venus dire que Papon était un résistant important, et que par conséquent, c'était scandaleux qu'il soit poursuivi, alors que les gages donnés à la résistance auraient dû suffire aux magistrats à l'époque. Et c'est pour ça que j'ai développé dans mon ouvrage un chapitre sur Papon, un résistant bien clandestin, pour démontrer, je pense, et le procès d'ailleurs l'a bien mis en exergue, quoi qu'ait pu être dit au départ, qu'en réalité, il a effectivement donné quelques services à la résistance, il ne faut pas le négliger, mais c'est uniquement à la fin, et parce qu'il a bien senti, il n'est pas con non plus, le Papon, que fin 43, début 44, les choses allaient changer, et s'il voulait sauver justement sa peau, eh bien, il fallait donner quelques gages, c'est ce qu'il a fait.
C'était un jury populaire. Et qu'est-ce qui a fait basculer ce jury vers la décision finale? Donc, il est inculpé pour complicité de crimes contre l'humanité. Après avoir entendu tous ces résistants, des grands résistants, tu l'évoques effectivement dans tout un chapitre dans le livre, qu'est-ce qui a pu le faire basculer, ce jury?
En fait, c'est le procès lui-même. Le procès a duré quand même 6 mois. Il était parti au départ pour durer 2 mois. Il a duré 6 mois, en partie parce que Papon a été quand même malade à un moment donné. Et puis, il y a eu le décès de sa femme qui a Pankowski rallongé un petit peu les débats. Mais c'est l'ensemble, justement, des convois qui ont été examinés et le fait de voir que Papon est resté dans son bureau signer les ordres sans se rendre sur le terrain, et de voir tous ces gens qui sont partis directement de Drancy à Drancy, ensuite Drancy à Auschwitz, ont fait comprendre au jury populaire qu'au-delà des actes effectivement de résistance qu'a pu ponctuellement faire Papon, il était vraiment lui le responsable, parce qu'il faut rappeler qu'en 1942, il y a eu un accord entre Hitler et Pétain au niveau donc de la zone libre et de la zone à l'époque occupée, hein, et que par conséquent, il était entendu au niveau des Juifs que les Allemands devaient, en guillemets, rafler les Juifs étrangers et pas les Juifs français. Or, le problème, c'est que les Allemands, il leur fallait des quotas, et quand le quota n'était pas rempli, eh bien, on prenait tout ce qu'il y avait à prendre. Et alors qu'il y avait ces accords-là, eh bien, et que dans d'autres endroits d'ailleurs, ils ne sont pas partis, les Juifs français, à Bordeaux, certains, et de plus en plus, sont partis. Donc Papon lui-même a été plus que complaisant envers les Allemands à Bordeaux, et ça explique, à mon sens, que le jury est allé vers la condamnation. Étant entendu, c'est important de le rappeler quand même, qu'il n'a pas été complètement dans ce qui aurait pu être mis en place. Je veux dire que Papon, tu l'as rappelé, était poursuivi pour crime contre l'humanité, mais en tant que complice, bien évidemment, mais il n'a pas été démontré pour le jury, alors que je pense, moi, l'avoir démontré, et pas que moi dans le livre, qu'il est également poursuivi pour connaissance de la solution finale. Donc c'est la raison pour laquelle, tout en étant reconnu coupable, le jury a estimé qu'il n'avait pas connaissance de la solution finale, et c'est pour ça qu'il a été condamné qu'à 10 ans, parce que ce n'est pas une question d'importance. 10 ans, ce n'est même pas rien. Et puis, il avait 87 ans à l'époque, parce qu'il est assez âgé. Mais dans l'échelle des crimes, le crime contre l'humanité, c'est quand même le plus important. Et rien n'aurait pu empêcher, c'est d'ailleurs ce qu'a fait De Gaulle par ailleurs avec Pétain, qu'éventuellement, il puisse bénéficier, vu son grand âge, d'une remise de peine ou même d'une grâce partielle. Mais sous le plan du principe, condamner quelqu'un à un crime contre l'humanité, ben seule la peine la plus importante, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité, à mon sens, aurait dû être appliquée, étant entendu que le procureur général lui-même n'a réclamé que 20 ans pour cette raison-là. Il a estimé lui aussi qu'il n'y a pas la preuve, n'a pas été rapportée pour lui de la connaissance de la solution finale, alors que quand on revoit les débats de l'époque, et j'ai rappelé un certain nombre de choses dans mon ouvrage, Papon savait.
Le procès Papon.
Histoire d'une ignominie ordinaire au service de l'État.
Avec Jean-Jacques Gandini.
Sur Dissonance.
Alors, Papon savait, mais effectivement, vous l'avez prouvé tous là, lors de ce procès. Mais dans ce procès, on voit dans les images, qu'on peut encore retrouver en replay, je mettrai le lien sur le site, on voit aussi des secrétaires qui faisaient des listes. Et alors, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été condamnées? Elles étaient aussi complices, quelque part.
Tout à fait. Mais ça, par rapport à ce que tu dis, c'est le phénomène général qui est que dans cette affaire Papon, il ne faut pas oublier, et ça je le dis au tout début, au niveau de la procédure, elle a commencé en 81 et le procès a lieu en 97. 16 ans de procédure. Et à l'époque, effectivement, ce qui était quand même important, c'était de s'attaquer aux vrais responsables. Parce que c'était un peu passé sous silence, Papon essaie de le mettre en avant en disant que moi qui suis au procès, mais non. Au cours de la procédure, grâce à la ténacité, je tiens à le rappeler, de deux avocats, principalement d'abord Gérard Boulanger, sans qui le procès, sincèrement, n'aurait pas pu se faire. Et puis, il faut quand même le reconnaître également, Serge Klarsfeld, qui a bougé aussi pas mal dans cette affaire-là, comme il l'a fait lui aussi dans l'affaire Barbie et dans l'affaire Touvier. Eh bien, le procès, au cours de les inculpations pendant la procédure, eh bien, ont été inculpés également le préfet régional, donc Maurice Sabatier, inculpé Jean Leguet, qui était le lien entre Bordeaux et Paris, et également était inculpé le fameux Bousquet, qui était le ministre de l'Intérieur de fait, et qui était le grand Manitou dans cette affaire-là. Le problème, tout simplement, c'est qu'en 97, quand il y a eu le procès Papon, eh bien, ils sont tous morts. Leguet et Sabatier sont morts de vieillesse, et Bousquet a été, faut dire, tué par un certain, quelqu'un qui est un peu curieux d'ailleurs, et qui apparemment n'avait pas toute sa tête, hein, mais ça a arrangé beaucoup de personnes que Bousquet ne soit pas poursuivi, parce que ça, et je le rappelle également dans l'ouvrage, il a eu des liens importants avec notamment un certain François Mitterrand, qui fait qu'après la guerre, eh bien, il a été plus que récupéré. Et lui-même, d'ailleurs, a été jugé après la guerre, mais pour service rendu à la résistance, eh bien, ce n'est pas les plus loin en ce qui le concerne. Donc, il est évident qu'on a déjà eu beaucoup de mal à faire poursuivre et faire juger Papon, et même au-dessus ses supérieurs, eh bien, le juge d'instruction n'a pas eu le temps ou la possibilité d'inculper éventuellement aussi ceux qui étaient en dessous, hein, les subalternes, mais qui, eux-mêmes, ont participé à la machine de guerre. Il fallait marquer un exemple, et je pense que c'est quand même effectivement pour l'histoire plus judicieux que ce soit Papon qui a été poursuivi. Mais au vu de ce que tu rappelles à l'instant, des témoignages au procès notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du procès, on voit notamment deux secrétaires du service des questions juives. Il y en a une qui est encore restée sur son admiration envers M. Papon. Par contre, l'autre a bien rappelé qu'en réalité, eh bien, il se rendait compte de ce qui se passait et qu'effectivement c'était bien une machine à exclure qui a été mise en place, et celle-là, cette secrétaire-là, elle l'a bien rappelé également.
Moi je viens d'un pays qui s'appelle l'Espagne où il y a une loi d'amnistie générale, et ça pose beaucoup de débats entre ceux qui ne veulent plus parler du passé parce qu'il faut avancer et ceux qui veulent rappeler ce qui a été fait pour que chacun paie ses actes et en soit responsable. Ça participe de cette démarche-là en France, donc il faut quand même punir les gens qui ont agi comme ça.
Oui, oui, et ça n'empêche pas qu'il faut quand même aller de l'avant. Ça n'empêche pas également d'ailleurs que certaines de ces personnes qui ont été poursuivies et condamnées, certaines ont compris et ont pu ensuite refaire à la fois une vie et même une carrière intéressante, parce qu'ils ont reconnu leurs responsabilités. Ce qu'on reproche à Papon pour la suite, c'est que lui, non seulement il n'a pas reconnu, mais il a continué dans le déni. Et si on peut dire, on voit bien sa trajectoire, puisque au-delà justement de Papon, donc Bordeaux, eh bien il y a le Papon Algérie, plus spécialement, effectivement, avec le 17 octobre 1961, où il était préfet de police, mais il a fait une grande partie de sa carrière dans les années 50 en Algérie, et en Algérie, il faut le rappeler, qu'au départ, il a été appelé par le gouvernement socialiste de l'époque. Hein. Et en 56-57, quand il y a la fameuse bataille d'Alger, qui a toutes les tortures systématisées par Bigeard et par Massu, eh bien, c'est un gouvernement de Front républicain, Guy Mollet, soutenu par les communistes et dont le ministre de la Justice de l'époque, qui a refusé la plupart des grâces des condamnés à mort algériens, était un certain François Mitterrand.
Là aussi, il y aurait des choses à faire et à dire et à écrire.
Il y en a eu, ça continue, puisque quand même Pierre Péan a fait son bouquin là, sur la jeunesse de Mitterrand. Et il faut quand même reconnaître à Mitterrand que lui, à la différence de Papon, a quand même reconnu un certain nombre de choses et en même temps a voulu aller plus loin, mais jusqu'à un certain point. Il n'a jamais voulu justement que soit inculpé de lui-même, donc par conséquent Bousquet, parce que ça, il faut le rappeler, Bousquet, après la guerre, était très présent avec les baïlettes à Toulouse, avec la fameuse dépêche. La dépêche était un des haut-parleurs qui a permis à Mitterrand en 1965 de faire une campagne importante. Et donc, Bousquet, pour les services rendus à Mitterrand à cette époque-là, bien Mitterrand a estimé, on le voit d'ailleurs par un extrait dans le film qui vient de sortir sur Papon, il a un peu la même réflexion qu'avait avoir Pompidou avant sur Touvy en disant les choses sont passées, il faut laisser le passé et le passé, maintenant il faut revenir, il faut arrêter, donc il faut passer à autre chose. Et le paradoxe, c'est que dans l'affaire Papon, c'est grâce au président de la République, mais pas Mitterrand, le suivant, c'est Jacques Chirac qui, lui, a reconnu, et il faut le rappeler, la responsabilité, justement, de la France dans cette affaire-là, en rappelant qu'effectivement, il y a l'État de Vichy et la République française, mais qu'en même temps, c'est la France elle-même qui était partie prenante, et donc, il faut la reconnaître, la responsabilité de la France, alors que beaucoup de gaullistes traditionnels essaient de dire, Pétain, c'est Pétain, la France était de Gaulle, la France était à Londres, non, c'est exact. Heureusement qu'il y a eu effectivement cette résistance française grâce à De Gaulle et les autres, mais en même temps, on est en France, c'est la France qui doit assumer l'entière responsabilité de ses actes, et donc c'était important que Chirac fasse cette déclaration. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le jury, à mon avis aussi, en a tenu compte, pour bien replacer les choses dans leur contexte, et condamner Papon comme il était condamné, en rappelant, c'est important, que si justement cette condamnation est peu importante, tu l'as rappelé par rapport au nombre de Juifs qui sont partis de Bordeaux à Nancy puis Auschwitz, sur les 10 convois qui sont partis de Bordeaux, il n'y en a que 8 qui ont été reprochés à Papon, parce que c'est les seuls 8 où il y avait des partis civils, puisque ce sont les partis civils qui ont enclenché l'action publique, ce n'est pas le parquet, qui était aux ordres de la justice, n'a pas bougé dans cette affaire-là. Le parquet, en fait, a été partie complémentaire. Ce sont les parties civiles qui sont à l'origine du procès Papon. Et sur les 8 convois, justement, qui sont partis, il n'y en a que 4 qui, finalement, ont été retenus à la fois par le parquet général et ensuite par donc le jury, parce que les autres, ils ont estimé que la responsabilité de Papon n'était pas suffisante par rapport aux ordres allemands. Mais en fait, en reprenant les convois un par un,
ce que tu fais dans ton
voilà, livre. Je montre que ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'en même temps, avec la connaissance de la situation finale, le verdict, c'est bien qu'il y ait une condamnation, mais il laisse quand même un petit goût amer, puisque, à mon avis, on est resté au milieu du gué.
Il y a une phrase très forte dans ton livre, page 193. Non, ce n'est pas parce qu'il y a eu Hitler ou Pétain que nous avons eu des hommes comme Papon, mais parce qu'il y a eu des milliers d'hommes comme Papon que nous avons eu Hitler et Pétain.
C'est exactement le cas. C'est bien ça, cette fameuse chaîne, cette chaîne aussi de responsabilité qui fait que si on laisse faire, eh bien, à ce moment-là, tout va s'enclencher. Et par conséquent, depuis le plus petit chaînon jusqu'au plus important, eh bien, la machine va se mettre en marche. Si on arrive à la gripper à un moment donné, et c'est là que les choses peuvent changer. Et c'est pour ça qu'en même temps, je rappelle aussi la citation d'Étienne de Labo ici sur le consentement, hein, c'est le problème de consentement. Et là, on revient à Papon, on revient au fonctionnaire. Le fonctionnaire n'est pas là simplement pour obéir aux ordres. Il y a une éthique de fonctionnalité, mais il y a une éthique de responsabilité. Hein, et par conséquent, à un moment donné, il faut pouvoir aussi agir en fonction d'une réalité D'autant que je rappelle que Papon s'était prévalu du fait que son propre père avait été membre de la Ligue des droits de l'homme, que lui-même avait des convictions au départ de gauche, hein, et par conséquent républicaine, il a quand même servi en partie en tant que jeune fonctionnaire le Front populaire, et par conséquent, eh bien, d'autres d'ailleurs l'ont démontré, que leur éthique de conviction l'a emporté sur leur éthique de responsabilité, de fonctionnalité, et on peut dire que ce problème-là est malheureusement toujours d'actualité.
Et je rappelle la phrase du jeune Étienne de la Boétie, qui avait 18 ans et qui, en 1548, dans son discours de la servitude, écrivait « Le pouvoir ne s'impose que du seul consentement de ceux sur lesquels il s'exerce ».
C'est fondamental, et c'est toujours là aussi fortement d'actualité.
Le procès Papon.
Histoire d'une ignominie ordinaire au service de l'État.
Avec Jean-Jacques Gandini.
Sur Dissonance.
Et alors, est-ce que la participation à ce procès t'a aidé à alimenter ta réflexion sur le devoir de désobéissance et raison d'État ? J'ai souvenir à une époque où des enseignants se battaient contre le fichage des élèves. Tu étais intervenu et tu avais fait un texte remarquable qui, pour moi, reste fondamental, qui était le droit contre la loi.
Oui, effectivement, le droit est un instrument qui permet, lorsqu'on a des convictions générales, il y a des principes qui mènent notre vie et toute vie en société, qui doivent permettre de temps en temps de lutter contre la loi. La loi, c'est quoi ? La loi, c'est effectivement une mise en œuvre du droit, mais à partir d'un système dans lequel on est. Je veux dire, il n'y a pas la loi en tant que telle. La loi, on l'a bien vu sous Vichy, il y a également aussi bien sous Hitler que sous Staline, il y avait des lois. Hein, ou même actuellement, en Chine, avec Xi Jinping, c'est un régime de droit. Ils disent, nous sommes un état de droit. Un état de droit, mais quel droit ? Et sur quelle base ? Donc, par conséquent, à un moment donné, par rapport aux principes généraux de droit, tels qu'ils sont prévus, notamment par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les principes généraux du droit mis en place par la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, il faut que la loi soit en résonance avec ces grands principes. Si la loi n'est pas en résonance, eh bien, on doit, je ne dis pas on peut, on doit la combattre. Et c'est la raison pour laquelle, dans certaines situations, le devoir de résistance s'impose. Et pour revenir à ce que tu disais, le devoir de désobéissance aux raisons d'État, dans cette affaire à l'époque par rapport à Bazelève, lorsqu'on s'est rendu compte que dans la loi française, eh bien, on demandait aux instituteurs de demander l'origine géographique, notamment des parents, et une intrusion intolérable au niveau de la vie privée, eh bien, il fallait pouvoir dire non à cette loi, comme on a dit non également au niveau des prélèvements génétiques qui étaient une atteinte directe à la vie privée, et par conséquent, même si la loi à l'époque prévoyait des sanctions, j'ai préconisé de pouvoir dire non à cette loi. Il y a eu des poursuites, et effectivement, des personnes ont été condamnées, parfois d'ailleurs à des peines assez relativement minimes parce que le parquet était embêté, mais il y a une condamnation, on est allé jusqu'à la Cour européenne, et la Cour européenne nous a finalement donné raison. Donc ce principe-là doit toujours nous guider, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, lorsque, à la suite de ce texte, comme tu dis, j'en ai parlé au niveau donc, de tous ces instituteurs qui étaient présents là-dessus, il y a eu cette résonance qui fait qu'on a mené un combat au niveau national. Et donc, on a pu obtenir ce temps d'avancée parce que justement, c'est pu faire boule de neige. Et à un moment donné, il faut dire non. Et on s'aperçoit qu'en disant non, eh bien, on peut être suivi et qu'ensuite, une mécanique peut s'enclencher qui permet de pouvoir faire changer les choses. Et j'espère que ça continuera à le faire comme actuellement, où par rapport, il faut le reconnaître, la montée résistible, hein, pour le moment, je dis bien uniquement résistible, des idées d'extrême droite. Il faut pouvoir dire non et continuer le combat, qui est un combat qui doit être mené tout le temps.
Je te cite, tu écrivais en 2009, il est donc des situations où il est nécessaire de désobéir, car plus qu'un devoir de vigilance, s'impose alors un choix de résistance. C'est ce que nous aurons à faire si Marine Le Pen arrive au pouvoir.
Exactement, exactement. C'est pour ça qu'en même temps, il ne faut pas jeter le manche après la cognée, puisque tout le monde dit, ah, ça y est, maintenant, vous voyez, l'opinion publique, le nombre de députés. Non, il y a une tendance. Et il faut le reconnaître, c'est une tendance qui malheureusement n'est pas que française, elle est européenne, voire même internationale. Mais en même temps, on voit bien d'ailleurs actuellement aux États-Unis, après l'effet de sidération de Trump au bout de 3 mois, il commence à y avoir aussi aux États-Unis, même actuellement, une résistance qui essaie de se mettre en place, etc. Et qu'après la sidération, il y a éventuellement une contre-offensive qui se met en place. Et là, en France, on n'en est pas, heureusement, encore là, mais c'est la raison pour laquelle, eh bien, il faut pouvoir se mettre en place, discuter et surtout s'unir au maximum pour pouvoir lutter contre, au-delà, de la puissance de l'extrême droite, des idées telles qu'elles sont mises en place pour faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas s'attaquer aux conséquences, mais aux causes. Toujours revenir aux causes de ce qui a pu enclencher un problème, et c'est pour ça que là, je pense qu'à son petit niveau, mon livre peut contribuer à cette réflexion.
Et c'est sur quoi aussi travaille la Ligue des droits de l'homme, dont tu fais partie
Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Je crois que la base, tu parlais aussi de l'Espagne tout à l'heure, c'est l'éducation, c'est au niveau de l'éducation, au niveau de la connaissance des faits, et d'apporter aux enfants aussi une capacité de réflexion. C'est pour ça que lorsque j'ai sorti cet ouvrage, la première fois il y a 25 ans, ce que j'ai beaucoup apprécié à l'époque, c'est que j'ai été appelé à intervenir dans des collèges ou des lycées. Et je crois que c'est plus important encore qu'au-delà de certaines conférences que j'ai pu faire auprès d'un public adulte, bien évidemment, c'est d'essayer d'en parler au niveau des élèves qui, dans le cadre de l'école, doivent mieux comprendre ce qui se passe et connaître le passé pour mieux appréhender le présent et anticiper sur l'avenir.
Justement, pour revenir à... Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et pour revenir à ton livre, on a dit en tout début que c'était une version augmentée de la version de 1999. Notamment, tu reviens sur l'après-procès, ce que devient Papon, sa tentative de fuite. Tu vas nous en parler, mais aussi, tu évoques le Papon, et tu l'as enrichi, cette partie, qui était préfet de police de Paris de 1958 à 1967.
Oui, effectivement. Papon a été 9 ans préfet de police. Il était mis préfet de police sous la 4e, hein, puisqu'il était mis en place au début 58. Et ensuite, De Gaulle l'a maintenu dans sa position. Et donc, il a été au cœur aussi de la répression par rapport à ce qu'on appelle la question algérienne, qui était en fait au-delà de la question et des événements. C'était bien une guerre qui s'est produite à ce moment-là, entre 1954 et 1962, et qui a eu, disons, une apogée en France au début des années 60, lorsqu'on s'est rendu compte, effectivement, qu'il faut trouver une solution, et qu'il a commencé à y avoir une tentative de mettre en place des pourparlers entre le FLN, Front Libération Nationale, qui représentait les Algériens, et le gouvernement français. Eh bien, il y a eu, effectivement, en même temps, une volonté de certains d'empêcher cette mécanique. C'est comme ça qu'a été créée la fameuse OAS, Organisation de l'armée secrète, et en même temps, les Algériens, pour pouvoir peser dans le cadre de ces négociations, avaient décidé, en octobre 61, de faire une grande marche pacifique importante à travers Paris pour marquer le coup.
17 octobre 1961, 20h30.
Le journal de 13h de France 2, 16 octobre 1997, archive INA.
Venu des bidonvilles de Nanterre et du 18e arrondissement de Paris, 30 000 manifestants se dirigent vers les Champs-Élysées. Des Algériens qui réclament la levée du couvre-feu instauré quelques jours plus tôt par le préfet de police, Maurice Papon. Le rassemblement est interdit et en vertu du couvre-feu, tout ressortissant algérien, manifestant ou non, peut être mis en état d'arrestation. 10 000 policiers, CRS, gendarmes mobiles vont s'en charger de la manière la plus brutale. Lorsqu'un message radio de la police indique à tort le décès de plusieurs gendarmes, la répression tourne à l'hystérie meurtrière. Des manifestants sont tués par balles, d'autres jetés dans la Seine.
Ils ont jeté les vieux. D'abord, Et après, nous, ils ont avancé encore les camionnettes dans la Noire. Ils ont jeté nous cinq dans l'eau.
Bilan officiel, 3 morts, 64 blessés. Aujourd'hui, les historiens avancent les chiffres de 200 morts, 400 disparus, 11 500 arrestations. La version de Maurice Papon est bien différente. Hier, l'ancien préfet de police estimait à 15 ou 20 le nombre de victimes. Et encore, selon lui, s'agissait-il de règlements de compte entre factions algériennes.
Et en réalité, ça a été un véritable massacre qui s'est produit à cette époque-là, un massacre qui a été occulté à ce moment-là, hein, et qui, au bout d'un certain nombre d'années, effectivement, est ressorti. De massacre, on parle également maintenant quand même de massacre d'État, et si les chefs d'État de l'époque, évidemment De Gaulle en tête, mais les suivants n'ont rien dit, eh bien depuis quelques années, ça bouge. Déjà, François Hollande avait commencé à bouger un peu en partie, et il faut le reconnaître, le président Macron en a rajouté, peut dire une couche, il n'a pas parlé encore de massacre d'État, mais de massacre. Donc il y a une évolution, une prise en considération, une prise de conscience. Et je dois rendre hommage à ce niveau-là à deux personnes par rapport au procès Papon Algérie. C'est d'une part Jean-Luc Einaudi qui a fait le point sur cette répression d'État du 1761 et a démontré effectivement qu'il y avait eu un massacre et qu'il y avait au moins entre 150 et 300 personnes qui ont été tuées à ce moment-là par les forces de police. Et ensuite, comme Papon a cru malin de faire un procès à Einaudi, estimant qu'il mentait par rapport à ça, le procès qui a eu lieu à Paris ensuite, eh bien, Einaudi a pu faire témoigner une conservatrice des archives qui avait accès effectivement sur nos documents, qui, elle, justement, a fait prévaloir son éthique de conviction, son éthique de fonctionnalité, qui est venue témoigner au second procès, donc le procès de Paris en 1999, où Papon avait poursuivi en diffamation Einaudi. Et grâce au témoignage donc de Brigitte l'aînée et de son alter ego Philippe Grand, qui lui a fait un témoignage écrit, eh bien, on a pu démontrer effectivement que ce qu'avait avancé Einaudi était bien la réalité au niveau des documents produits par Brigitte l'aînée. Jean-Luc Einaudi a été relaxé, Papon n'a pas fait appel, mais il a essayé par la suite par son avocat de faire pression contre Brigitte l'aînée. Et Brigitte l'aînée, qui a eu beaucoup de vicissitudes par rapport à ça au niveau de sa propre hiérarchie, eh bien c'est pour ça que j'ai fait un sous-chapitre en l'appelant l'anti-Papon, car je tenais à rendre hommage à Brigitte l'aînée, comme a rendu hommage, avant qu'elle décède malheureusement assez tôt, les élèves chartistes qui, au cours de leur dernière session, ont donné son nom en hommage à Brigitte l'aînée pour rappeler ce qu'elle avait été, parce que cette Brigitte l'aînée a malheureusement été traînée dans la boue, et pas d'autre mot, et un des rares à avoir pris sa défense à l'époque, notamment au sein de la Ligue des droits de l'homme, c'est François Nadiras, qui était à l'époque à la LDH de Toulon, et qui a toujours été très sensibilisé aux problèmes des colonies, avec qui j'ai correspondu à l'époque, et c'est grâce à lui notamment qu'il y a eu une pétition qui peut être lancée au niveau à la fois national et international pour justement soutenir Brigitte l'aînée. Et il faut le dire, malheureusement, je le dis d'ailleurs dans l'ouvrage, qu'il y a eu beaucoup plus de soutiens internationaux que nationaux la concernant.
Le procès Papon.
Histoire d'une ignominie ordinaire au service de l'État.
Avec Jean-Jacques Gandini.
Sur Dissonance.
Oui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc, en page 218, tu écris : nous attendons également qu'il soit rappelé qu'au-dessus de Papon, suite à cet événement-là, octobre 61, il y avait un ministre de l'Intérieur, Roger Frey. Au-dessus de ce dernier, il y avait un Premier ministre, Michel Debré. Et au sommet de tout ça, il y avait le président de la République, Charles de Gaulle. Et tu écris : qui devra en rendre compte devant le tribunal de l'histoire.
Tout à fait, parce que ce côté-là, bon, De Gaulle, on sait très bien ce qu'il a fait, et l'hommage doit lui être rendu, bien évidemment, par rapport à la résistance, et le fait que dès le 18 juin 40, il a lui-même combattu Pétain et tout ce qui s'est passé ensuite, mais en tant que chef d'État, eh bien, il y a eu des tâches, et cette tâche-là, elle existe, puisque au moment où Papon a commis ce massacre d'État en tant que brevet de police, il a été couvert tout de suite. Il a été couvert, et De Gaulle a estimé à ce moment-là que ça, bien sûr, que c'était pas bien, qu'il n'aurait pas dû le faire, mais il l'a couvert, au nom justement de la fameuse raison d'État. Raison pour laquelle je pense important au niveau de l'histoire, qu'il doit rendre compte de ce qui s'est passé à cette époque-là, et que si massacre il y a bien eu, c'est bien un massacre d'État, et qu'en tant que massacre d'État, il a donc été couvert par le chef d'État de l'époque, et ce chef de l'État, c'était général De Gaulle.
Et tu écris dans ton livre, est-ce que le général De Gaulle rendra compte devant le tribunal de l'histoire le 17 octobre 2025 ?
Oui, parce que depuis quelques années, effectivement, il y a un souvenir qui est rappelé chaque 17 octobre. Au pont Saint-Michel à Paris, il y a une plaque quand même qui a été mise en place. Même si cette plaque, comme je le dis, a été assez minime, il n'est pas allé très loin, mais il faut quand même rappeler. Donc, M. Delanoë a quand même fait ça à cette époque-là. Ça a été fait ailleurs également à Beson, à l'autre pont où il y a eu également des massacres d'Algériens. Et je le disais, donc, le président de la République actuel, Emmanuel Macron, a quand même fait un communiqué assez important il y a 2 ans, dans lequel il reconnaît un certain nombre de choses au niveau de l'État français, mais sans avoir parlé de massacre d'État. Donc, au niveau de chaque 17 octobre, il intervient maintenant pour rappeler ce qui s'est passé, et donc je finis en disant, ah, écoutez, monsieur le président de la République, ça serait bien que le 17 octobre 2025, le prochain 17 octobre, soit enfin reconnu que ce qui s'est passé le 17 octobre 1961 est bien un massacre d'État.
Justement, puisque tu parles d'Emmanuel Macron, à propos d'impunité et de non-respect du droit, que penses-tu de ceux qui se taisent chez les élus politiques comme Macron et qui ne respectent pas le droit international ? Je pense au mandat d'arrêt lancé le 21 novembre 2024 à la suite d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou, chef du gouvernement en Israël. Donc la France, comme 124 autres pays, est désormais tenue d'arrêter Netanyahou s'il entre sur leur territoire ou s'il le survole. C'est ce qui s'est passé ce 6 avril. Et la France n'a pas bougé.
La France n'a pas bougé parce qu'il y a la fameuse raison d'État et en même temps il y a les alliances au niveau international, hein, et on sent bien que de ce côté-là, il y a toujours une réticence par rapport à l'État d'Israël, parce que l'État d'Israël, ben, c'est un État, il ne faut pas l'oublier, et donc en tant qu'État, il a sa propre raison, en tant que... C'est Nietzsche qui disait justement que l'État est un monstre froid, et donc il y a, comment dirais-je, une raison d'État qui va plus loin que la réalité des gens qui ont porté cet État-là. L'État d'Israël a été créé parce qu'après la guerre, après effectivement la Shoah et le massacre systématique, effectivement le plus grand génocide qui a été créé dans l'histoire, ça n'a pas été le seul, mais c'était le plus systématique et le plus industriel, puisque celui-là, les Juifs ont été non seulement massacrés, mais ensuite sont passés dans les chambres à gaz, ce qui est vraiment le crime des crimes. Eh bien, il y a toujours au niveau de l'opinion publique internationale un certain malaise par rapport à l'État d'Israël, puisqu'il a été créé pour pouvoir permettre à tous ces Juifs, les survivants, qui n'avaient plus d'endroit où se mettre en place. Que je rappelle, c'est important, qu'après la guerre, eh bien, les Juifs, ceux qui ont été survivants, n'ont pas été bien accueillis, malgré tout, au sein de la population française. Certains, d'ailleurs Klarsfeld le rappelait lui-même, dans son interview, lorsqu'il avait réussi à revenir et qu'il était allé à Paris, eh bien, dans son appartement, il a vu que son appartement était occupé. Il a fallu qu'il fasse un procès pour pouvoir récupérer son propre appartement, pour montrer la façon dont les Juifs ont été à nouveau considérés en France après la fin de la guerre. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette espèce de malaise par rapport à ça. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je suis désolé, ce que fait Netanyahou, et pas que Netanyahou, il n'a pas commencé. Il y a eu d'autres avant et d'autres chefs d'État, même qui étaient à l'époque de gauche au sein du gouvernement israélien. Mais lui, par contre, il l'a systématisé. Et c'est pour ça que dans les poursuites qui ont été engagées, il y a non seulement lui, mais il y a également à l'époque le ministre de la guerre, Yoav Galant. Et nous, ce qu'on souhaite, nous, c'est en fait la Ligue des droits de l'homme avec d'autres, etc., qui préconisons qu'également soient poursuivis les deux ministres actuels d'extrême droite, Ben-Gvir et Smotrich, qui vraiment ont pris position pour dire qu'eux, encore plus fortement que Netanyahou, pour eux, le seul Palestinien bon, c'est un Palestinien mort. Hein. Il y a donc bien, de ce côté-là, de la part de certains dirigeants d'Israël, une volonté d'éliminer l'autre. C'est pour ça que le terme de génocide doit pouvoir actuellement être en cours d'application par rapport à ce qui se passe à Gaza. C'est effectivement la Cour internationale de justice qui est saisie qui dira effectivement s'il y a bien génocide ou non juridiquement. Mais ce qui est en train de se passer, c'est exactement tous les actes qui conduisent à un véritable génocide. Et ça, il faut malheureusement le rappeler.
Puisqu'on a débuté la discussion sur la complicité de crimes contre l'humanité, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un crime contre l'humanité ? Et le silence des organisations politiques, des médias, c'est pas être complice de ça. Moi, je pense toujours à ce que diront nos petits-enfants, mais qu'est-ce que vous faisiez ? Là, vous l'aviez sous les yeux, il y avait les médias, il y avait tout ça, les images, et vous n'avez pas bougé.
Tout à fait, tu as tout à fait raison de rappeler que tous les États actuellement qui ne font rien par rapport à ce qui se passe actuellement à Gaza, se rendre complices également à leur tour de crimes contre l'humanité, voire éventuellement complicité de crimes de génocide qui est en train de se commettre, s'ils ne bougent pas. Donc de ce côté-là, il y a une responsabilité écrasante de la communauté internationale, et tu as tout à fait raison de le rappeler. Le problème, c'est qu'actuellement, on a un droit international qui, intrinsèquement, est important, mais qui malheureusement ne bénéficie pas d'une force suffisante pour le mettre en application. Et c'est pour ça que depuis bientôt plus de 50 ans, il y a tout un tas de résolutions qui ont été prises par l'ONU par rapport à ce qui se passe actuellement en Palestine. Et toutes ces résolutions, eh bien, sont pour l'instant restées lettres mortes. Il n'y a pas eu d'application. Et du coup, bien évidemment, les différents gouvernements successifs d'Israël, voyant que cette impunité continue, et continue également. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une réaction forte de la communauté internationale pour pouvoir essayer de changer les choses. Et c'est pour ça que cette responsabilité, effectivement, tu le fais bien de souligner, cette complicité nous concerne tous.
Pour revenir à ton livre, j'ai trouvé formidable que tu puisses en parler dans les collèges et les lycées. Il est prévu des interventions dans les...
Il est prévu. Bon, c'est à l'Éducation nationale, éventuellement à nouveau, de me contacter et de me faire des propositions. Mais moi-même, effectivement, avec la Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs, on a déjà fait un certain nombre de démarches dans ce sens-là. Je veux simplement dire que dans le premier temps, donc dans les années 2000, lorsque j'ai fait ces interventions dans des collèges, dans des lycées, vraiment, c'était très important. Et surtout, le faire en lien avec les professeurs à la fois d'histoire-géographie et également les professeurs d'instruction civique, parce que c'est également ça qui est important. Il faut qu'une certaine éducation, une certaine conscience se fasse, mais en même temps, il faut apporter l'information. Hein. Et lorsqu'on voit le peu de place qui, même encore actuellement, figure dans les manuels sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et surtout le génocide juifs tels qu'il s'est produit, etc., on comprend mieux pourquoi, malheureusement, il y a encore des gens actuellement qui continuent à nier ce qui s'est passé. Et pour finir là-dessus, je rappellerai simplement que pas plus tard que lundi 28 avril, 14h, à Montpellier, au tribunal correctionnel, passe une personne qui est poursuivie justement pour négationnisme. Elle continue à nier l'existence des chambres à gaz. Et on passe en procès avec notre association partie civile pour dénoncer bien évidemment ce fait. Tribunal correctionnel Montpellier, lundi 28 avril, 14h.
Avant de finir, Jean-Jacques, un petit mot sur Jean Chapoutot qui a fait la préface et puis Ariel Halimi, la postface. Toujours d'actualité cette postface.
Oui, alors en fait, dans ce moment d'actualité, bon, tu l'as rappelé, Ariel Halimi, effectivement, avocat, est en même temps actuellement un des vice-présidents nationaux de Ligue des droits de l'homme, et qui était au départ un avocat, il faut le dire, assez classique, mais qui a été sensibilisé par les violences policières et qui, depuis quelques années maintenant, a son cabinet à traiter d'un somme d'affaires importantes quant à les violences policières, notamment l'affaire Chouette, voilà, et, mais entre autres, hein, qui va bientôt passer, on peut l'espérer, à la fois, on va voir si c'est le tribunal ou si c'est les assises, mais donc Ariel Halimi est très sensibilisé à ce problème, parce qu'en plus au niveau de sa propre famille, évidemment, il a été touché par ce phénomène de la Shoah. Quant à Johan Chapoutot, c'est un historien effectivement qui est spécialisé dans le monde nazi. Hein, il est parfaitement germanophone, avec accès à toutes les archives. Et il vient d'écrire un livre aussi que je recommande, qui est très important, qui s'appelle « Les irresponsables », hein, qui démontre comment justement ce n'est pas Hitler qui est arrivé au pouvoir du fait que l'extrême droite était la partie, disons, politique la plus importante à l'époque en 1932-1933 en Allemagne. C'est vrai que c'était les plus importants, mais pas que. Et c'est parce que la droite lui a fait, on peut dire, la courte échelle, qu'il a été nommé chancelier. Il y a donc une responsabilité de la classe politique allemande très importante dans l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et c'est ce que Johan Chapoutot rappelle dans ce livre « L'irrécit responsable ». Et c'est avoir pris connaissance justement de sa trilogie sur le monde nazi et des irresponsables que j'ai contacté et qu'il a très volontiers et très rapidement accepté de faire cette préface, et je l'en remercie.
Ton livre, je le mettrai sur le site, il y aura des dates où tu vas intervenir pour le présenter, mais il y a déjà le 16 mai à la Comédie.
Alors, pour l'instant, le 16 mai à 16h, je suis à la Comédie du Livre dans les Jardins du Pérou à Montpellier, mais j'ai déjà d'autres choses de prévues, notamment je serai à 7 le 20 mai à la Nouvelle Librairie Sétoise, et je serai également, j'ai déjà été contacté à Paris, notamment à Bobigny. Et il faut rappeler que c'est à côté de Bobigny qu'il y avait la gare de Drancy. Hein, et donc là, c'est le syndicat des avocats de France qui m'a contacté, ainsi que les droits de l'homme, pour venir intervenir. Et je serai donc à Bobigny, c'est-à-dire prévu pour le 25 juin. Et entre-temps, j'ai d'autres propositions qui sont arrivées, où j'attends de me mettre d'accord sur un nombre de dates. Mais je rappelle qu'effectivement, je suis tout à fait disponible pour répondre à des sollicitations, soit d'associations, soit de librairies, soit éventuellement, effectivement, comme on disait à l'instant, de lycées ou de collèges qui souhaiteraient que je vienne les entretenir de cet ouvrage.
Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour ta disponibilité.
Merci, Joseph, et bonne continuation à Radio Sainte-Afrique.
Salut
et fraternité.
À propos de bonne sang, malheureusement, aujourd'hui, il y a 41 ans, jour pour jour, à quelques pas d'ici, le long des grands boulevards parisiens, ont massacré une manifestation de dizaines de milliers d'Algériens pour en faire un massacre et pour stopper un élan d'émancipation et un souffle de libération. Le 17 octobre 61, c'est une date qu'on tient absolument à rappeler parce qu'il y a urgence et c'est une histoire qui a mis plus de 30 ans, qui a été occultée pendant plus de 30 ans, honteusement. Et c'est quelque part notre responsabilité de le rappeler. Voilà, donc on voulait solennellement aujourd'hui. Merci. Solennellement aujourd'hui, on tient à le rappeler le 17 octobre 2002 au Zénith devant vous. Cette histoire, elle nous appartient. Elle appartient à chacun et à chacune d'entre vous. Parce que c'est aussi et surtout de l'histoire de France.